Bonsoir à tous. Arnaud Montebourg annonce sa candidature à l'élection présidentielle. L'ancien ministre du redressement productif veut éviter, selon lui, la douleur d'un deuxième quinquennat Macron ou d'un premier quinquennat Le Pen. Il propose une remontada de la France. Reportage dans un instant. La liste rouge de la nature. Près de 30% des espèces étudiées sont menacées, selon l'Union internationale de conservation de la nature. Les spécialistes alertent sur un effondrement de la biodiversité et évoque une sixième extinction de masse. Des milliers de personnes à nouveau dans la rue contre le pass sanitaire aujourd'hui. Plus de 200 manifestations étaient annoncées partout en France. Dans ce journal également, du rugby avec la reprise du top 14 et le match de football ce soir. Ukraine-France à Kiev en qualification pour le Mondial 2022. Le temps pour demain, retour à des conditions plus calmes avec des températures estivales. Jean-Michel Kolinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Sa proposition pour la France est une remontada industrielle, démocratique et écologique. Arnaud Montebourg s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. L'ancien ministre du redressement productif a annoncé sa candidature cet après-midi depuis sa ville natale de Clamecy, dans la Nièvre. Une candidature de plus à gauche et malgré l'absence d'appui d'un parti, Arnaud Montebourg a confié éprouver de la légitimité à défendre ses idées, Antoine Gignot.
Ambiance populaire et étonnement sur les visages face à celui qui se présente désormais sans étiquette, patron et producteur d'amandes, de miel et de glace.
Je ne vis pas de politique, c'est donc un entrepreneur, un militant du Made in France, défenseur de la cause des abeilles, qui se présente aujourd'hui devant vous, conscient de ses possibilités d'agir et des sérieuses responsabilités qui en découlent.
Un seul mot d'ordre, redresser la France, une remontada économique, sociale, écologique, lance Arnaud Montebourg, convaincant pour Michel Saurin, ancien chevènementiste, et Alexis Herbet, militante.
Il a pris du recul en étant entrepreneur et tout par rapport au champ politique traditionnel.
Il est vraiment détaché aujourd'hui de tout parti. C'est un mouvement vraiment beaucoup plus citoyen. Revenir à vraiment la vraie démocratie et lancer la 6ème République.
Une République avec plus de contrôle sur les ministres et sur le président. Car c'est à Emmanuel Macron qu'Arnaud Montebourg s'attaque pour se poser en rival. Il fustige la disparition de l'industrie française, le bilan économique du quinquennat et parle de violence excessive et inutile face aux gilets jaunes.
321 crânes ouverts. 25 personnes éborgnées.
Des propositions plus concrètes vont suivre, promet Arnaud Montebourg, qui veut déjà nationaliser les sociétés d'autoroutes, faire racheter à l'État le million de logements vacants dans les campagnes pour les redistribuer gratuitement et imagine une France sans pétrole.
Antoine Gignot avec Olivia Branger en direct de Clamecy. À droite, les Républicains ont ouvert aujourd'hui leur rentrée politique autour des jeunes LR avec des universités d'été centrées sur le programme et avec encore à régler la question du candidat. Et lors d'une courte vidéo diffusée présentant les visages des candidats victorieux au régional de juin dernier, certains ont reçu un accueil glacial des militants comme Xavier Bertrand, sifflé par la salle. À l'inverse, Valérie Pécresse attendue dans la soirée et Laurent Wauquiez ont été très acclamés par la foule à l'apparition de leur visage sur grand écran. Et puis concernant la primaire écologiste, les militants doivent choisir leur candidat lors d'un vote en ligne, premier tour du 16 au 19 septembre prochain. France Inter vous propose demain le premier débat de la primaire écologiste à l'occasion de la rentrée de l'émission Questions politiques. Questions politiques XXL pour l'occasion est désormais présenté par Thomas Negaroff. Le premier débat de la primaire écologiste entre Delphine Bateau, Sandrine Rousseau, Jean-Marc Governatori, Éric Piolle et Yannick Jadot à partir de demain midi jusqu'à 13h30. En direct sur France Inter depuis l'auditorium de Radio France. Dragon de Komodo, requin, raie, la liste rouge des espèces menacées d'extinction a été dévoilée par l'Union internationale de conservation de la nature lors de son congrès mondial aujourd'hui à Marseille. Et selon l'UICN, près de 30% des espèces étudiées sont menacées. Les spécialistes alertent sur un effondrement en cours de la biodiversité. Certains évoquent une sixième extinction de masse. En direct de Marseille, on retrouve Célia Quilleri. Bonsoir Célia.
Bonsoir Frédéric.
Alors l'UICN a donc publié son baromètre du vivant avec des espèces emblématiques d'animaux qui sont aujourd'hui en danger.
Oui, et parmi ces espèces emblématiques, il y a le rhinocéros, la girafe, le pangolin. Et cette année, les scientifiques insistent aussi sur les végétaux. Un tiers des espèces d'arbres sont menacées. Ricardo Tereda est le porte-parole de l'Union internationale de conservation de la nature.
C'est une crise dont on parle peu, on connaît peu, mais il y a beaucoup d'arbres qui rentrent dans la liste rouge et c'est le cas partout dans le monde. Et malheureusement, il y a des arbres qui sont des espèces iconiques aux États-Unis, ici en Europe, etc., qu'on perd soit à cause du changement climatique, mais aussi pour d'autres choses. L'American chestnut, que moi j'ai grandi aux États-Unis, je suis américain, il y avait des milliards il y a une centaine d'années, ils n'arrivent plus à l'âge adulte, ils sont très menacés.
Des châtaigniers sont donc en danger aux États-Unis. Parmi les causes de ces menaces, le réchauffement, la déforestation, la surpêche apparaissent clairement. En mer, près de 40% des espèces de raies et de requins sont menacées, contre 24% il y a moins de 10 ans, insiste Sébastien Moncor, directeur du comité français de l'UICN.
Il y a notamment une pratique assez scandaleuse qui s'appelle le finning, où le requin est pêché simplement pour lui couper son aileron, pour faire après des soupes d'aileron de requin. Le requin est lui relâché vivant, il meurt après en fait dans la mer. Il faut être très vigilant voilà, sur cette pression accrue que l'on fait peser sur ces espèces de requins.
Enfin, il y a une bonne nouvelle, Frédéric. 4 espèces de thon sur 7, et notamment le thon rouge de l'Atlantique, sortent de cette liste des espèces menacées, preuve que les quotas de pêche fonctionnent quand ils sont respectés.
Célia Kiré, merci en direct de Marseille. Au Brésil, c'est une sécheresse historique qui entraîne une pénurie d'électricité. Près des 2/3 de l'électricité du pays est produite par des centrales hydroélectriques et les réservoirs d'eau sont au plus bas. La situation est critique. Sur place à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino.
C'est la plus grave sécheresse que le Brésil ait connue depuis près d'un siècle. Pour tenter de réduire la consommation énergétique, le gouvernement a augmenté les tarifs de l'électricité de près de 20% en un an. William Nozaki est économiste.
Dans un contexte de crise économique et sanitaire, l'accès à l'électricité devient plus difficile pour une partie de la population. Et c'est une façon de rationner la consommation par le prix.
Car le spectre de la dernière grande crise hydrique de 2001 plane sur le Brésil. À l'époque, en plus des rationnements, le pays avait subi de grandes pannes d'électricité. Cette année, la sécheresse pèse déjà sur l'agronégoce et provoque une augmentation de l'inflation.
À cause de l'impact négatif sur la production de canne à sucre, il doit y avoir moins d'offres d'éthanol et donc une augmentation du prix du combustible.
Les pluies prévues dans les prochains mois seront sûrement insuffisantes pour inverser la tendance, selon l'économiste.
Malheureusement, l'actuel gouverneur brésilien a mené une politique de désinvestissement, de dérégulation, de privatisation qui a rendu le secteur énergétique vulnérable.
Selon les spécialistes, la crise hydrique est aussi une conséquence des incendies en Amazonie, responsable du manque de pluie dans le pays. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour France Inter.
8e samedi de mobilisation contre le pass sanitaire. Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues, dans de nombreuses villes de France. À Paris, 5 rassemblements étaient programmés pour défendre la liberté, selon le mot d'ordre des manifestants du monde, aussi dans les rues à Lyon, où plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui, Mathilde Amberti.
La rentrée se fait logiquement à Lyon, chez elle, pour Laïla, qui avait au cœur de l'été manifesté dans le Var, sur son lieu de vacances. Elle refuse le vaccin et aussi d'être taxée d'irresponsable.
Donc je fais mon test antigénique toutes les semaines et je fais très attention, je suis une professionnelle. Je travaille dans une boîte d'aide à domicile. Depuis le début du Covid, on n'a pas eu un seul patient malade. Je commence à connaître plus de gens qui ont des effets secondaires du vaccin que de gens qui ont eu le Covid. Donc moi, ça m'inquiète. Moi, c'est hors de question qu'ils m'injectent ce truc. Hors de question.
Le cortège traverse, bien encadré par les forces de l'ordre, l'hypercentre de la ville. Pas de drapeau de parti ou de syndicat, mais quelques gilets jaunes et blouses blanches. Catherine, aide-soignante auprès de particuliers, a peur pour eux.
À la base, moi, je ne peux pas être suspendue. Seulement, les personnes qui bénéficient de l'allocation PCH et APA sont soumises du coup à... On va leur retirer leur allocation si jamais un contrôle se passe et qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas contrôlé mon QR code, que je n'ai pas. Et donc ça, c'est juste monstrueux.
Des contestataires déterminés à se faire entendre chaque semaine, Jean-Paul, pour des raisons de fond, dit-il.
Je suis vacciné, oui, donc je ne suis pas anti-vax. Hein. Mais c'est sur des questions de fond, de mesures autoritaires, de remise en cause des droits des personnels, mais aussi de refus d'accès à un certain nombre d'usagers dans les hôpitaux, les écoles, les bibliothèques municipales. Donc on dit, on n'acceptera pas ça.
Deux cortèges défilaient à Lyon. Ils ont regroupé au total 3700 personnes, selon la préfecture, contre 3000 la semaine dernière. C'est une rentrée mobilisatrice. Lyon, Mathilde Lamberti, France Inter.
Du rugby avec la reprise du top 14 aujourd'hui. Cet après-midi, Biarritz s'est imposé face à Bordeaux-Bègles, 27 à 15. Castres a battu Pau, 16 à 12. Et Brive l'a emporté, 36 à 15 devant Perpignan. Et en ce moment, dans le derby francilien, le Stade français reçoit le Racing 92. L'une des affiches de la première journée en direct du Stade Jean-Bouin. On retrouve Maxime Fayolle. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Et à la mi-temps, le Racing mène.
Oui, le Racing qui mène 20 à 6. Ici, une première mi-temps qui s'est achevée sur une dernière poussée du Stade français à domicile hein, dans ce Stade Jean-Bouin. Les Parisiens qui ont bien cru réduire l'écart, inscrire leur premier essai de la saison, mais il a finalement été annulé par la vidéo pour un avant de Johan Maestri. C'est un score plutôt mérité hein, quand même pour le Racing qui a dominé cette première période, qui a inscrit deux essais. Au plus grand plaisir des centaines de fans bleus et blancs qui ont fait le court déplacement dans ce Stade Jean-Bouin. C'est une superbe ambiance hein, pour cette reprise du top 14. On a des supports, de la musique, des chants, des cris, bref, c'est presque le monde comme avant après une saison à huis clos marquée par une année de Covid. En tout cas, sur la pelouse, rien n'a changé puisque le Racing n'a plus perdu sur cette pelouse parisienne depuis 2017. C'est en passe de continuer ce soir, en tout cas à la mi-temps, 20 à 6 pour le Racing face au Stade français.
Du football aussi, et l'événement ce soir, c'est le match Ukraine-France en qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. Après 4 matchs nuls d'affilée, les Bleus vont devoir se rattraper. En direct de Kiev, on retrouve Cédric Guillou. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Frédéric.
Alors les Bleus n'ont pas le choix, après le décevant match nul un partout contre la Bosnie-Herzégovine cette semaine, l'équipe de France va devoir se réveiller ce soir.
Oui, elle joue gros hein, cette équipe de France, Frédéric, déjà mathématiquement dans ce groupe de qualification. Les Bleus ne veulent pas laisser l'opportunité à l'Ukraine de revenir au classement. Les Ukrainiens qui sont à 4 points des Français avant ce match. Les Bleus qui veulent aussi laisser la Finlande qui a battu le Kazakhstan début de soirée à distance. Et puis elle joue gros aussi en termes de confiance après le fiasco de l'Euro. Eh bien les Bleus voulaient se rassurer, repartir de l'avant mercredi contre la Bosnie-Herzégovine. Et vous l'avez dit, ça n'a pas été le cas. Les Français restent sur 4 matchs nuls de suite. Une telle série sans victoire n'était pas arrivée sous l'ère Didier Deschamps depuis 2013. Deschamps, auteur de choix forts pour le match de ce soir, puisque Varane et Benzema, on vient de l'apprendre, seront sur le banc des remplaçants, remplacés par Kurt Zouma et Anthony Martial. L'équipe de France, qui on le rappelle, sera privée ce soir également d'N'Golo Kanté et de Kylian Mbappé, qui sont tous les deux blessés. Et puis les Bleus qui auront contre eux 45 000 Ukrainiens dans ce magnifique stade olympique de Kiev, où vous l'entendez derrière moi, le speaker est déjà en pleine forme.
Merci Cédric Guillou. Coup d'envoi à 20h45, Ukraine-France, avec Benzema, nous disait Cédric Guillou, et Varane sur le banc des remplaçants. On termine avec ce carnet rose sur la ligne 8 du métro à Paris. Une petite fille est née ce matin à la station Reuilly-Diderot. Le trafic a dû être momentanément interrompu sur une portion de la ligne. La mère et le bébé se portent bien, et c'est la RATP qui a annoncé la bonne nouvelle. Mélanie Kuzelevich de France Bleu
Paris. Trafic interrompu sur la ligne 8 du métro en raison d'un accouchement et de la naissance d'une petite fille. Voilà la drôle d'annonce que les voyageurs ont entendue dans les haut-parleurs ce samedi en fin de matinée. Vers 11h30, une femme d'une trentaine d'années donne naissance à son bébé dans une rame de métro à la station Reuilly-Diderot. Alerté, le conducteur arrête le train et les passagers sont évacués pour plus d'intimité. Le chauffeur va ensuite porter les premiers soins à la future maman avec une sage-femme qui était par hasard dans la même rame. Les pompiers prennent le relais, l'accouchement se passe bien et à 11h40, une petite fille voit le jour. La maman et le bébé vont bien, ils ont été transportés à l'hôpital et comme ce genre d'événement n'arrive pas tous les jours, la mère et la fille recevront bientôt des cadeaux de la part de la RATP, des fleurs, un doudou et en prime, un an de passe Navigo pour la maman.
Voilà Mélanie Kuzelevich de France Bleu Paris, le temps pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Jean-Michel Golinski.
Demain, les orages vont s'éloigner, mais les températures, déjà d'un bon niveau estival aujourd'hui, vont encore gagner quelques degrés, situant les maximales entre 27 et 29 degrés dans la moitié nord, 29 à 32 au sud. Il est prévu par exemple 27 à Lille, Nancy et Alençon, 29 à Paris, Limoges, Dijon, Lyon, Marseille et Ajaccio, 30 à Biarritz et 32 à Toulouse. Le ciel de la matinée sera souvent assez gris, mais l'évolution sera favorable vers un temps ensoleillé, sauf sur les rivages du Languedoc et du Roussillon, où les entrées maritimes mettront quand même plus de temps à disparaître. En journée, le ciel partout, plus ou moins variable, va donner de rares ondées en plaine, mais en montagne, notamment des Alpes à la Corse, les averses seront plus fréquentes et souvent plus marquées.
Jean-Michel Golinski de Météo France.